Manuel Valls, très clair sur le dossier calédonien. C'est lui qui en a la charge, a-t-il martelé sur la chaîne télévisée LCI. Des déclarations survenues après la rencontre entre le député Nicolas Metzdorf et Emmanuel Macron. Du changement prévu à Eramet, la PDG Christelle Bory devrait passer la main cette semaine pour la direction générale. Elle gardera toutefois la présidence. Si vous rencontrez des problèmes d'ordre juridique, sachez qu'il existe des permanences gratuites un peu partout sur le territoire. Des conseillers sont présents pour vous faciliter l'accès aux droits. C'est le retour d'un événement phare. L'élection Miss Nouvelle-Calédonie revient cette année après une interruption en 2024. Les inscriptions s'achèvent dans 5 jours. Une journée multisport à la Tontouta, ce sera dimanche prochain. Nous en avons parlé ce midi dans notre Mac des Sports avec l'un des organisateurs de l'événement, David Esposito. Extrait à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition Info Soir. Invité de LCI, le ministre des Outre-mer Manuel Valls revendique sa paternité et sa responsabilité dans le dossier calédonien, Elisabeth Noir.
C'est moi qui m'occupe du dossier. Le ministre des Outre-mer affirme être toujours en charge des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie au lendemain des déclarations du député Nicolas Metzdorf qui, après un entretien avec Emmanuel Macron, a annoncé que le président de la République prendrait une initiative dans les prochains jours afin de relancer les discussions. Une déclaration qui a manifestement irrité le ministre des Outre-mer, qui était hier soir pour nous l'invité de LCI.
Mais d'abord que Nicolas Metzdorf s'exprime, il n'est pas porte-parole que je le sache, ni du président de la République, ni du gouvernement. Je discute avec Nicolas Metzdorf, avec Emmanuel Djibaou, deux députés de la Nouvelle-Calédonie, l'un non-indépendantiste et l'autre indépendantiste. Il y a eu, oui, un échec des discussions et des négociations à Nouméa, mais le dialogue continue, le fil du dialogue n'est pas rompu.
Mais Manuel Valls n'a pas caché son agacement quand les journalistes lui ont demandé alors si les propos du député calédonien ne signifiaient pas qu'il était, lui, désavoué par le président de la République.
Si je n'étais pas en charge du dossier, si j'étais désavoué par quiconque, si je n'avais pas le sentiment de maîtriser le travail sur la Nouvelle-Calédonie, je ne serais pas devant vous. Je suis venu à la demande du Premier ministre, le Président de la République a évidemment accepté cette proposition, d'abord pour avoir en charge l'ensemble des territoires ultramarins, et pour trouver une solution pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Que le Président de la République, sur notamment la question de la souveraineté de ces territoires, ait plus que son mot à dire, mais c'est au cœur de ses prérogatives, c'est la clé de voûte des institution de la Ve République. L'institution présidentielle, non seulement ça ne me choque pas, mais je trouve ça normal qu'il y ait des initiatives qui soient prises, mais pas du type de celle annoncée par Nicolas Metzdorf, et qu'à un moment on se retrouve avec le chef de l'État. Mais ça a toujours été dit, ça n'est en rien une nouveauté. Mais pardon, je le dis à tout le monde, que chacun soit clair, celui qui s'occupe à la demande du chef du gouvernement du dossier de la Nouvelle-Calédonie, c'est le ministre des Outre-mer, c'est moi, il n'y en a pas d'autre.
C'est moi qui m'occupe du dossier, déclare Manuel Valls, et il ajoute qu'il n'est pas venu au gouvernement à la demande de François Bayrou, pour faire ou refaire ce qui a été fait par le passé et qui a échoué.
Au chapitre politique, toujours deux personnalités attendues en Nouvelle-Calédonie cette semaine. Par un hasard du calendrier, le député européen et vice-président des LR, François-Xavier Bellamy, et la chef de file des députés Rassemblement National, Marine Le Pen, seront en même temps sur le territoire du 27 au 31 mai, Elisabeth.
Les deux personnalités politiques arrivent ensemble demain soir à Tontouta, mais elles auront bien sûr des emplois du temps séparés. Marine Le Pen vient en compagnie de Louis Alliot, le maire de Perpignan, mais aussi de deux députés européens, André Rouget, qui est chargé de l'Outre-mer au Rassemblement National, et Christophe Bay, qui connaît la Calédonie, pour avoir été directeur de cabinet du haut-commissaire Dominique Bur, c'était en 1994. Dès mercredi matin, Marine Le Pen et sa délégation s'entretiendront avec le haut-commissaire Jacques Billon, avant de déposer une gerbe à la Croix de Lorraine et de s'arrêter au monument de la poignée de main place des Cocotiers. Ils rencontreront ensuite les différents responsables politiques et institutionnels. Leur séjour prévoit aussi jeudi une visite de la SLN, un déplacement à Ducos pour constater les dégâts causés par les violences insurrectionnelles, et jeudi soir, une réunion avec les chefs d'entreprise. Vendredi, Marine Le Pen se rendra au Mont-d'Or en navette maritime avant d'avoir d'autres entretiens politiques et elle clôturera son séjour vendredi par une réunion publique au Château Royal. Le député européen François-Xavier Bellamy, qui vient d'être nommé vice-président des LR par Bruno Retailleau, aura lui aussi de nombreux entretiens avec les responsables politiques et institutionnels. Il se rendra lui aussi sur le terrain pour constater le bilan des émeutes et pour rencontrer les chefs d'entreprise. Mercredi soir, il tiendra une réunion publique à l'hippodrome de Nouméa, une réunion publique à l'invitation conjointe du Rassemblement et des loyalistes.
Et j'ajoute que nous recevrons Marine Le Pen jeudi matin à 7h30 dans les studios de Radio Rythme Bleu. Le député européen François-Xavier Bellamy sera quant à lui votre invité, Elisabeth, dans le magazine Transparence. Ce sera vendredi à midi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, est-il utile, selon vous, que des personnalités comme François-Xavier Bellamy ou Marine Le Pen effectuent une visite en Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez que c'est utile, vous tapez 1. Si vous pensez que ça ne l'est pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le comité spécial de la décolonisation de l'ONU s'est réuni la semaine dernière au Timor oriental. Des représentants loyalistes et indépendantistes de Nouvelle-Calédonie y ont pris la parole. La Polynésie française a proposé d'accueillir la session 2027, mais la France y est opposée. Des sujets sur lesquels nous reviendrons demain matin avec notre invité qui a participé à ces travaux. Nous recevrons en effet Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique. Et bientôt du changement à la tête d'Eramet. Christelle Bory, nommée PDG le 23 mai 2017, va garder la présidence. Mais Jean-François Bodin, elle va passer la main cette semaine pour la direction générale.
Un choix voulu par la famille Duval et par l'État, les principaux actionnaires d'Eramet. La séparation entre la présidence et la direction générale du groupe doit être validée par le conseil d'administration qui se réunit la nuit prochaine pour nous. C'est l'Italien Paolo Castellari qui deviendra après-demain, une fois la décision actée par le conseil d'administration, le nouveau directeur général d'Eramet. Italien d'origine, il possède aussi la nationalité brésilienne. Il travaille depuis 30 ans dans la mine et les métaux et il a occupé plusieurs fonctions dans des grands groupes internationaux. Avant de passer la main à la direction générale, Christelle Bory a rappelé chez nos confrères de France Inter que l'activité de la SLN était sortie du bilan d'Eramet, comme c'est le cas depuis plus d'un an. Toutefois, Eramet continue d'apporter un soutien logistique et technique à la SLN et à sa partie opérationnelle, mais l'État continue d'apporter, lui, un soutien financier direct. À l'heure actuelle, et alors que la plupart des sites miniers de la côte Est sont toujours bloqués ou inaccessibles, l'usine de Doniambo ne tourne qu'aux 2/3 de ses capacités. Il reviendra donc au nouveau directeur général d'Eramet, Paolo Castellari, d'adapter ou non la stratégie du groupe vis-à-vis de la SLN. Il devrait venir sur le territoire avant la fin de l'année. Notez d'autre part qu'un nouveau secrétaire général de la SLN devrait lui arriver dans les prochaines semaines. Le poste était vacant depuis la fin du mandat de Nathalie Bacache.
Et la formation de certains métiers de l'enseignement du premier degré au cœur des discussions aujourd'hui au Congrès. Les élus étaient réunis en séance publique avec à l'ordre du jour la question des formations de conseillers pédagogiques, maître formateur ou maître d'accueil temporaire. Les certifications qu'elles délivrent sont validées par le vice-rectorat grâce à une convention qui arrive à son terme. Leur reconnaissance nationale était donc menacée, comme l'explique Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement, notamment en charge de l'enseignement et des questions relatives à l'enseignement supérieur.
Dans le cadre du transfert, ces certifications qui étaient reconnues auparavant au niveau national ne le sont plus. Donc l'idée, c'est de proposer un texte au Congrès pour vraiment les sécuriser. On a fait en sorte que les examens, les certifications qui se font localement soient exactement basées sur les textes métropolitains. Et à partir du moment où ils le sont, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir faire la demande au ministère. Ils verront qu'en fait, on fait passer exactement les mêmes examens et les mêmes formations. Et j'espère qu'ils pourront valider le fait de continuer à les reconnaître. Ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que quand il y a un transfert, on l'a vu pour le sport, on l'a vu pour l'enseignement, il faut être très prudent parce qu'en fait, on se rend compte qu'à terme, il y a un certain nombre de diplômes ou de certifications qui ne sont plus reconnus au niveau national.
Et ici, pas de débat. Après seulement 40 minutes de séance, la délibération a été adoptée à l'unanimité. 17h54, on va marquer une première pause avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire et notamment, on va jeter un coup d'œil du côté de la justice.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Soir, Léana Colombo.
Au chapitre des faits divers, aujourd'hui, près d'un millier de poissons ont été retrouvés morts dans un point d'eau près de la tribu de Wao à Yaté. Les gendarmes et les gardes nature étaient sur place pour effectuer des prélèvements. Selon les premières informations, il s'agirait d'un choc thermique dû à un relâchement d'eau du barrage de Yaté dans la zone. Les enquêteurs excluent toute cause de pollution due à l'usine de Prony. Et des incendies ont également été signalés à Puebo tout d'abord. Les gendarmes ont constaté une effraction et un début d'incendie dans la salle de restaurant du lycée professionnel catholique Gabriel Riva. Le feu ne s'est heureusement pas propagé. Et à Païta, les pompiers sont intervenus pour éteindre quelques incendies de déchets. C'était près du lycée Anova. Du côté de la justice, la fin de la deuxième session d'assises de l'année au palais de justice de Nouméa. Le verdict est tombé dans l'affaire de coup mortel sur conjoint. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis probatoire pour une femme de 37 ans, originaire de Lifou. Elle était jugée pour des faits survenus dans la nuit du 19 octobre 2019 à Nouméa. La mise en cause avait asséné un coup de ciseau au sternum de son compagnon après une altercation qui avait mal tourné. L'homme n'avait pas survécu à sa blessure. Les jurés ont globalement suivi les réquisitions de l'avocat général. Justice toujours, l'univers juridique peut être un vrai calvaire quand on s'y connaît peu. Entre démarches administratives et accès au droit, il est très facile de s'y perdre. C'est pourquoi des permanences juridiques sont mises en place un peu partout sur le territoire. Il existe actuellement un peu plus de 30 points de justice répartis dans les 3 provinces. Des permanences qui ne désemplissent pas tant la demande est importante. Accès au logement, non-versement de pension alimentaire, les sujets sont variés, explique Marie Mathéos, coordinatrice du Conseil de l'accès aux droits de la Nouvelle-Calédonie.
Ça peut concerner la famille, ça peut être un problème de pension alimentaire par exemple, ça peut concerner le travail, une situation de licenciement, ça peut concerner le logement, une situation de procédure d'expulsion locative, ça peut concerner un problème de contrat avec une entreprise, enfin vraiment tout sujet. C'est ouvert à tout le monde, vraiment tout le monde, quelle que soit la nationalité, quel que soit l'âge, même des mineurs, on pourrait imaginer que des mineurs aient besoin de venir. Il y a des endroits où ça se passe plutôt sur rendez-vous ou des endroits où c'est sans rendez-vous. Ici, vous êtes au point justice du tribunal de première instance de Nouméa, il y a des permanences tous les lundis matins et tous les jeudis matins sur rendez-vous.
Rose s'est présentée ce matin au point de justice du tribunal de première instance de Nouméa. Pour elle, cette permanence juridique est une véritable bénédiction pour son dossier dont elle a du mal à saisir les tenants et les aboutissants.
J'étais vraiment dans le flou total par rapport à mes problèmes. J'avais besoin d'être entendue puis d'être accompagnée. Quant à mon problème actuellement, j'étais victime d'une agression que j'étais prise en charge par un avocat. La dernière démarche qu'on avait fait ensemble, c'était une demande d'aide judiciaire que j'ai pas eu gain de cause. Mais par contre, mon avocat, il m'a jamais recontacté. À l'instant même, je suis dans le flou total. En tout cas, ça aide beaucoup. Beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Voilà, ils sont dans le flou total. De tout ce qui est juridique surtout. Hein. Ouais. On a besoin d'être aidé, accompagné. Et je vous remercie beaucoup.
Pour connaître les horaires et les lieux d'accueil, rendez-vous sur le site internet cad.nc ou sur la page Facebook. Les rendez-vous peuvent être pris par téléphone au 24 01 99 24 01 99 pour le tribunal de Nouméa ou en vous rendant directement au point de justice. La province Sud poursuit les contrôles des entreprises ayant bénéficié de l'aide Sud-Pro. L'enveloppe d'1,2 milliard de francs allouée à la plateforme a été entièrement consommée en seulement 11 jours après son lancement le 5 mai dernier. Plus de 9000 entreprises se sont inscrites et 8268 étaient éligibles à l'aide Crédit Sud. À ce jour, plus de 10 000 devis ont été réalisés et 9013 factures ont été validées. Parmi elles, 1250 ont déjà été contrôlées, dont 191 refusés. Majoritairement basées à Nouméa, ces entreprises exercent surtout dans les secteurs des services, du BTP et du commerce. En bref, toujours une réunion avec les chefs d'entreprise. Elle est organisée par le gouvernement en partenariat avec la province Sud, la CCI et la CMA. Elle débute actuellement à la Maison des Artisans et le gouvernement souhaite faire un point sur les dispositifs de soutien et de relance actuellement en place, mais souhaite aussi recueillir les besoins et les propositions des acteurs économiques. Lors de cette réunion, le président de la CCI, David Guyenne, doit présenter 7 propositions concrètes et urgentes pour sauver les entreprises.
RMB 18h.
La Marine nationale se mobilise pour préserver l'environnement marin. L'opération Rade Propre a été lancée ce matin avec comme objectif de remonter un maximum de déchets accumulés dans les fonds marins, Charlotte Coulson.
Des pneus, des ferrailles en tout genre, des vélos ou même de vieilles encres marines. L'océan regorge de trésors qui ne sont pas tous dorés. Les plongeurs de la Marine nationale en ont fait l'expérience aujourd'hui. 13 d'entre eux ont raclé, exploré les fonds marins de la pointe Chalex, juste à côté de l'île Aubrin, une zone où les détritus ont tendance à s'accumuler, comme l'explique le major Yann, chargé prévention, environnement et développement durable à la base navale.
Alors la pertinence de choisir cet endroit-là, c'est que tous les courants marins, le vent, ramènent énormément de déchets sur la base navale, des déchets qui viennent de la ville ou qui viennent directement de la haute mer. Tout le courant nous ramène les déchets, donc ça flotte hein, entre deux eaux et tout se retrouve soit sur nos côtes, soit dans nos eaux. Donc on ramasse au fur et à mesure, chaque année on fait des opérations et cette année on a voulu vraiment élargir à tous nos plongeurs. Donc ce qui fait que là il y a vraiment tous les plongeurs de tous les bateaux, à part ceux qui sont partis en mer ou qui vont partir en mer, qui participent à l'opération afin de vraiment marquer le moment et que les gens se rendent compte que bah, tous les déchets qu'ils jettent au jour le jour, bah, tout ça, ça finit quelque part. Si c'est pas devant chez eux, ce sera sûrement sur la porte de quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est la nôtre.
Une précédente opération a eu lieu en 2022 au niveau de la gare maritime. 300 kg de déchets avaient alors été ramassés. Cette année, le bilan pourrait s'alourdir. Ce matin déjà, les plongeurs ont remonté une poubelle de ville, un pneu, plusieurs ferrailles et puis ils ont essayé tant bien que mal d'évacuer une ancre marine attachée à une chaîne de plus de 20 mètres. La manœuvre a mobilisé plusieurs plongeurs.
Là, en fait, il y a 15 jours, on a fait du repérage des grosses parties, on va dire plus de 50 kg à relever, pour savoir pour replonger dessus, parce que la visibilité n'est pas toujours bonne. Donc là, ils vont faire l'ancre en priorité. Et après, autour, il y a des gros pneus de tracteur qui servaient en fait à protéger les quais à l'époque. Et de là, en fait, après, les pneus vont être évacués, nettoyés en amont quand même, pour pouvoir les évacuer et que ça parte au traitement et au tri.
En visible, vous essayez au mieux, pour voir si vous arrivez un peu à faire le tour.
Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on nous avait pointé l'ancre avec la petite bouée orange là. Nous, on est venu s'accrocher dessus avec une circulaire. Une fois qu'on est tombé dessus, on l'a accroché avec les unités de relevage. Donc là, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse chaîne qui partait. Et là, on a décollé un gros morceau de chaîne du fond. Et on s'est rendu compte qu'elle partait bien loin sous le quai, donc on a dû abandonner la manœuvre. Du coup, on va devoir faire d'autres plongées dessus pour pouvoir expertiser, voir jusqu'où ça va.
Et le bilan de l'opération Rade Propre devrait être communiqué dans les jours qui viennent. Les débris seront ensuite lavés et envoyés dans une filière de traitement des déchets.
Et un autre rendez-vous sur notre antenne. Demain, on s'intéressera au bien-être animal dans le magazine Citoyen. La semaine dernière, la fourrière de Ducos a inauguré un espace de détente pour les animaux afin d'améliorer les conditions d'accueil. Nous en parlerons avec Olivier Berthelot, le président du CIGNE qui gère le site. Et nous parlerons également plus globalement de la situation sur le territoire en compagnie de Michel Gauthier, le président de la SPANC, et de Virginie Sala, la présidente d'Animal Action NC. Rendez-vous donc demain midi dans le magazine Citoyen. Et puis avant de refermer cette page, c'était journée d'élection à la Caisse locale des retraites. Les trois retraités qui siègent au conseil d'administration de la CLR ont été désignés par les cotisants. Avec un taux de participation totale de 46%, le syndicat des retraités territoriaux a récolté 1426 voix et obtient donc 2 sièges. Ils seront occupés pour les 5 prochaines années par Dominique Frontier et Françoise Armand. La FEDE obtient 523 voix et reçoit donc le siège restant qui sera occupé par Joao d'Almeida. L'UTCFE-CGC n'a récolté que 366 voix. Le syndicat n'aura donc pas de retraités siégeant au CA de la CLR. Il est 18h passé de 4 minutes. Seconde pause dans ce journal. A tout de suite.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Gédimat, 51 rue Auer à Ducos, c'est le partenaire des pros et des particuliers. Peinture, lasure, revêtement de sol et mur, salle de bain, produits techniques, étanchéité, électroportatif et quincaillerie. Gédimat, 25 98 84 ou sur Facebook, Gédimat Nouméa.
RRB, première radio d'information.
La fille du journal, Léana Colombo.
Oui, et tout le monde se pose cette question. Qui succédera à Emma Grousset? L'élection Miss Nouvelle-Calédonie reprend officiellement cette année. 8 Calédoniennes seront bientôt sélectionnées pour participer au concours de beauté. Et Charlotte Coulson, les inscriptions ferment dans à peine 5 jours.
Il n'y avait pas eu d'élection en 2024, bien sûr à cause du contexte que l'on connaît tous. C'est donc Emma Grousset, la Miss Nouvelle-Calédonie 2023, qui avait été reconduite, mais n'avait pas représenté le territoire lors de l'élection Miss France 2024. Après 2 années de mandat exceptionnel, elle passera le flambeau au mois de septembre. Le comité a finalement pu relancer le concours de beauté, comme l'explique Stella Levanau, la présidente du comité Miss Nouvelle-Calédonie.
On est aussi acteur, on participe à l'économie de ce pays, puisque préparer l'élection, c'est aussi faire intervenir des professionnels au niveau local. Et c'est à peu près une centaine de métiers autour de Miss Nouvelle-Calédonie. Comme vous le savez, le secteur de la culture, le secteur artistique souffre énormément, le secteur événementiel. Et nous avons pris la décision avec le bureau de pouvoir organiser cette élection. Alors c'était sous réserve d'avoir suffisamment de sous, hein, c'est clair. Hein. Donc on est enchanté, on remercie nos partenaires privés qui ont répondu avec un grand soutien pour que l'élection de Miss Nouvelle-Calédonie puisse avoir lieu cette année.
Et pour candidater, vous avez donc jusqu'au 31 mai. Pour cela, il faut se rendre sur la page Facebook du comité Miss Nouvelle-Calédonie, envoyer un message ou bien remplir le Google Form. Il y a bien sûr un processus de présélection au cours duquel les candidates doivent défiler. Elles sont aussi soumises à un test de culture générale ainsi qu'à un entretien de 15 minutes avec les jurés. Les critères de base restent la nationalité française et le sexe féminin sur la carte d'identité. Mais certaines conditions ont évolué. On fait le point avec Stella Levanau.
Effectivement, je suis vraiment enchantée de voir autant de jeunes femmes qui s'inscrivent. Alors les critères qui ont évolué depuis 2022, Miss France a ouvert les critères. Le premier critère qui fait plaisir aux populations du Pacifique, c'est une ouverture sur les tatouages, parce qu'on s'est rendu compte qu'en métropole, la plupart des Miss étaient tatouées. Ça fait partie aussi de la culture. Donc il y a l'ouverture des tatouages, l'âge, il n'y a plus de limite d'âge, en sachant que bien sûr, il faut savoir s'organiser. Est-ce que vous n'aurez pas des contraintes familiales? Donc tout ça, c'est important de le mesurer. Alors le seul critère, et pourtant, on a essayé, ça n'a pas marché, mais on comprend, la décision, c'est la taille. Donc pour participer à Miss France, il faut une taille d'1m70 minimum. Ça s'explique par rapport aux concours internationaux, puisque si Miss Nouvelle-Calédonie devient Miss France, elle participera à des concours internationaux. Et malheureusement, il y a un critère de taille.
Et ce sont donc les partenaires de l'élection qui choisiront dans 5 jours les candidates retenues pour le concours. La sélection officielle sera révélée dans la semaine qui suit le 31 mai. Les participantes auront ensuite 3 mois pour se préparer à l'élection qui aura lieu le 6 septembre. Et la Calédonie recevra pour l'occasion Diane Lair, Miss France 2022, qui restera une dizaine de jours sur le territoire.
On passe au sport avec un rendez-vous au programme dimanche prochain à Tontouta. Ce sera la première journée Sport Pro Events. Plusieurs disciplines seront présentes pour des épreuves de run and bike, de VTT et d'aquathlon, sans oublier les randonnées pour le grand public. Nous en avons parlé ce midi dans notre mag des sports avec David Esposito, l'un des organisateurs.
Le club Sport Pro regroupe un club de triathlon et de cyclisme. Donc on s'est dit pourquoi pas faire une belle journée familiale pour tout le monde, tourner autour de ces deux disciplines et en même temps créer une autre petite discipline, le bike and run, qui peut aussi ramener des trailleurs, donc des sports satellites au triathlon et au cyclisme. Là on organise un aquathlon en rivière, donc ça permet aux gens de nager plus tranquillement. Ils enchaîneront derrière avec un petit trail. Souvent, les aquathlons se font sur la route. Bon, là, on enchaîne rivière plus un petit trail. Pas difficile au niveau technicité, mais bon, course, c'est du trail, donc c'est pas sur la route. On sait que des gens sont intéressés par ça. Pareil pour le bike and run, donc un vélo pour deux. Et l'équipe part ensemble et ils s'échangent le vélo quand ils veulent. Donc, on en a un sur le vélo et un qui court. Vraiment sur des parcours très intéressants, très sympathiques, en forêt, différentes forêts en plus, Niaouli, Gaillac, un peu de prairie, un petit peu de terre. On veut garder le côté un peu festif, même s'il y a aussi la course dedans.
Un village d'animation sera également sur place. Les inscriptions pour le premier Sport Pro Events Tontouta sont disponibles sur le site inlife.nc jusqu'à jeudi minuit. Et en rugby, la joie du père de Yoram Moefana et frère de Sipili Falatea. Les deux joueurs qui gagnent avec leur club de l'Union Bordeaux-Bègle la finale de la Champions Cup hier matin. Taofi Fenois Falatea était encore une fois fier de son fils.
Il y a beaucoup d'émotions, en tout cas hier, on n'avait pas trop de mots, on le vivait comme ça en plus. C'est la fête des mères et c'est un très très beau cadeau. Alors on l'avait plus ou moins vécu en famille, partagé en famille et je suis surtout super heureux. On a eu juste un petit échange de 5 minutes après le sacre pendant qu'ils étaient au vestiaire, mais après on les a laissés tranquilles pour qu'ils puissent aussi profiter et puis voilà avec leurs copains parce que c'est des moments exceptionnels. Donc nous à mon niveau ben pareil, j'essaie aussi de profiter parce que c'est vraiment énorme. Moi je dis toujours que je suis privilégié en tout cas de vivre ça parce qu'il y a mon fils et mon frère et que par rapport à leur carrière ça donne aussi un peu plus de reconnaissance au travail qu'ils font, mais au-delà aussi de tout ce qu'on peut ressentir en tant que papa ou de la famille, mais on est fiers et heureux aussi pour l'équipe.
L'UBB qui a gagné la Champions Cup à Cardiff face aux Anglais de Northampton, 28-20. Yoram Moefana était titulaire pour ce match et le club est également en bonne voie pour se qualifier en vue des phases finales du top 14. 18h11, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, alors, cette nuit, après quelques ondées en soirée sur le nord-est, le ciel de la côte est se dégagera. Ailleurs, la nuit sera bien étoilée au début, puis une bande nuageuse abordera le sud-ouest et déposera quelques gouttes en fin de nuit. Le vent de sud-sud-est à sud-est moulira entre 5 et 10 nœuds. Sur le nord, il atteindra encore 10 à 15 nœuds en soirée. Le mercure, quant à lui, oscillera entre 14 et 21 degrés, localement de 22 à 23 degrés sur la pointe nord. Demain matin, sur le sud de la Grande Terre et l'île des Pins. Le ciel sera le plus souvent nuageux avec quelques ondées. Des remontées nuageuses et des averses plus rares intéresseront également le sud-ouest et les Loyautés. Sur les autres régions, le soleil s'imposera très largement. L'alizée de secteur sud-est variera entre 5 et 10 nœuds, voire autour de 10 nœuds en fin de matinée sur le nord-ouest et le nord des Loyautés, Léana.